Audiolib présente Narn Ikin Urin, le conte des enfants de Urin, de John Ronald Reuel Tolkien, traduit de l'anglais par Delphine Martin, lu par Thierry Janssen. Abaï Tolkien. Préface de Christopher Tolkien. Il est indéniable que pour un très grand nombre de lecteurs du Seigneur des Anneaux, les légendes des jours anciens, telles qu'elles ont déjà été publiées sous des formes diverses dans le Silmarillion, les contes et légendes inachevés et les volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, demeurent totalement inconnues, sinon à travers une réputation qui leur attribue un style et un genre étrange et hermétique. C'est pour cette raison que j'ai depuis longtemps dans l'idée qu'il y a tout lieu de présenter la version longue de la légende des enfants de Urin, écrite par mon père, comme une œuvre indépendante à part entière, en réduisant l'intervention éditoriale à son minimum et surtout en veillant à une continuité du récit, sans ellipse ni interruption, pour peu que cela puisse être réalisé sans distorsion ou invention, en dépit du fait que mon père a laissé certaines des parties inachevées. J'ai pensé que si l'histoire de la destinée de Turin et de Nienor, les enfants de Urin et de Morwen, pouvait être présentée de cette manière, elle pourrait ouvrir une fenêtre sur un décor et une histoire appartenant à une terre du milieu inconnue, et bien vivant et proche quoique conçue, comme nous parvenant de temps reculé. Les terres englouties, à l'ouest, au-delà des montagnes bleues, que Silvebarbe a parcourues dans sa jeunesse, et la vie de Turin Turambar, en Dorlemin, en Doriath, à Nargothrond et dans la forêt de Brethil. Ainsi, ce livre s'adresse avant tout à ceux des lecteurs qui se rappellent peut-être que la peau d'Arachné est si effroyablement dure qu'elle ne peut être percée par aucune force humaine quand bien même des elfes ou des nains auraient forgé l'acier, ou la main de Beren ou de Turin l'aurait maniée. Ou bien qu'Elrond évoque Turin devant Frodo à Foncombe comme l'un des puissants amis des elfes de jadis, mais qui ne savent rien de plus de lui. Quand il n'était encore qu'un jeune homme, du temps de la Première Guerre mondiale, et bien avant qu'il ne commence à songer aux histoires qui allaient constituer les récits de Bilbo le Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, mon père a commencé à écrire une série d'histoires qu'il a intitulée « Le livre des contes perdus ». C'était sa première œuvre littéraire de fiction, conséquente qui plus est, car bien qu'elle n'ait pas été achevée, elle comporte 14 récits complets. C'est dans le livre des contes perdus qu'apparaissent pour la première fois dans un récit les dieux, ou Valar, les elfes et les hommes, enfants d'Ilúvatar, le créateur, Melkor Morgoroth, le grand ennemi, les Balrogs et les orques, et les terres où les contes se déroulent, Valinor, la terre des dieux de l'autre côté de l'océan de l'Ouest, et les grandes terres, appelées plus tard terres du milieu, entre les mers de l'Est et de l'Ouest. Parmi les contes perdus, trois sont particulièrement longs et aboutis, et tous trois mettent en scène des hommes aussi bien que des elfes. Ce sont le conte de Tinuviel, dont une version brève apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, sous la forme de l'histoire de Beren et Lúthien, qu'Aragorn raconte aux Hobbits sur le Mont Venteux. Mon père l'a écrite en 1917. Turambar et le Fualoké, Turin Turambar et le Dragon, qui existait certainement dès 1919, si ce n'est avant, et la chute de Gondolin, 1916-1917. Dans un passage souvent cité d'une longue lettre écrite par mon père en 1951, 3 ans avant la publication de La Communauté de l'Anneau, et où il décrit son travail, il est question de son ambition passée. Il fut une époque, il y a longtemps que j'ai dû en rabattre, où j'avais dans l'idée de créer un ensemble de légendes plus ou moins reliées, allant du grandiose et cosmogonique au conte de fées des romantiques. Le grandiose étant fondé sur ce genre mineur qui se trouve au contact de la Terre, le mineur tirant sa splendeur de la vaste toile de fond. Je comptais faire un récit complet de certains des grands contes et seulement placer de nombreux autres dans la structure, sous forme d'ébauche. On voit bien d'après cette évocation qu'il avait toujours imaginé, dans sa conception de ce qu'allait devenir le Silmarillion, que certains des contes devaient faire l'objet d'un récit bien plus abouti. Et en effet, dans cette même lettre datée de 1951, il fait expliquer